Seul, je vais vite.
Ensemble, je vais plus loin.
Parce que la relation,
c'est essentiel. Une émission d'Émilie Vialette.
De quoi t'aurais besoin pour pouvoir avancer?
Ok, c'est quoi ta demande? De quoi t'as besoin?
Lorsque Monsieur A reçoit un coup de fil de son avocat, il n'en croit pas ses oreilles. Son voisin a décidé de l'assigner en justice pour nuisance olfactive. Monsieur A est agriculteur, il exerce son métier depuis 20 ans et tout se passait bien jusqu'à ce que Monsieur B achète une maison à proximité de sa ferme. Au début, cela a commencé par des remarques, puis des courriers. Plutôt ouvert au dialogue, Monsieur A s'est montré conciliant. Il a expliqué son métier, ses contraintes et a consenti à modifier quelques habitudes de travail pour accommoder son voisin. Mais les critiques ont continué et le conflit s'est envenimé, renvoyant chacune des parties dans son camp. Alors que l'on pourrait être tenté de penser que le conflit vient séparer les parties prenantes, en fait il n'en est rien. Et c'est même l'inverse qui se produit, puisqu'au final, M. A et M. B ne cessent de penser l'un à l'autre, et qu'ils sont donc, d'une certaine manière, totalement liés. Comme si, paradoxalement, le conflit créait du lien là où on ne l'imagine pas. Pour démêler ces liens subtils entre relations et conflits, je reçois aujourd'hui Nicole Bernard, médiatrice sociale à Millau et formatrice en approche systémique des conflits. Nicole Bernard, bonjour.
Bonjour.
Alors Nicole, comme je viens de le dire, tu es formatrice en approche systémique des conflits et médiatrice. Alors, qu'est-ce que l'approche systémique des conflits et quel lien fais-tu entre cette discipline et ton métier de médiatrice ?
C'est l'approche systémique de la communication d'abord, c'est pas l'approche systémique des conflits. Et la deuxième question, c'est quel lien je fais avec
la médiation.
La médiation, on est dans la relation. Et pour cela, faudrait que c'est un cours carrément sur l'approche systémique. Qu'est-ce que c'est ? C'est aussi la question. Alors, le mot systémie, on l'a beaucoup entendu pendant la crise du Covid. On disait, tiens, la crise est systémique. Et je me suis dit, tiens, ce mot arrive dans le tout public, puisque c'est un mot un peu nouveau. Alors, l'approche systémique, c'est vraiment penser et lire tout étant interrelié, tout est interdépendant. Voilà, première question. Et la première question, donc, c'est comment se sentir ensemble, comment communiquer, puisque mon action va avoir une répercussion sur l'autre, l'environnement va avoir une répercussion sur notre relation. L'idée, c'est que rien n'est séparé, tout est interdépendant. C'est ce que veut dire une crise systémique, on l'a vu, les impacts partout.
Alors, si on peut résumer ce que tu viens de dire, Nicole, c'est que finalement, une approche systémique de la communication, c'est une approche où tu vas en prendre en compte tous les éléments, les personnes qui parlent, l'environnement, tu prends en compte une communication globale.
Oui, tout à fait. Les grands principes de l'approche systémique, qui vient de l'école de Palo Alto, des chercheurs de l'école de Palo Alto outre-Atlantique, c'est que s'il y a des grands thèmes, l'imprévisibilité, et c'est bien ce qu'on remarque dans une relation, c'est imprévisible, comme vous avez cité, le conflit des voisins. C'est imprévisible, tout d'un coup une lettre d'avocat arrive, alors que le voisin pensait avoir tout mené comme il faut. Il y a le thème de la complexité. Complexe, ça ne veut pas dire simple, et ça ne veut pas dire qu'on peut simplifier, je veux dire. Ce qui est complexe, on ne peut pas le simplifier. On ne peut que le modéliser, donc, et d'une manière imparfaite. Donc, on a vraiment des zones très complexes, du coup, qu'on ne peut pas forcément éclaircir d'emblée. On ne peut pas simplifier ce qui est complexe. Voilà, encore un deuxième principe. Imprévisibilité, complexité, impermanence. Évidemment, tout change tout le temps. Et cette discipline qui est liée, qui s'appelle le constructivisme, ce qui est en fait, le chemin se fait en marchant. Je pose un pas, l'autre va poser un pas, et on ne sait que le chemin avance, mais c'est tout. Voilà ce qui est compliqué dans la communication humaine, justement, c'est que je pose un pas, je ne sais pas forcément le pas que va faire l'autre. Alors, mon métier en médiation essaye, bien sûr, de réunir les gens, s'ils sont d'accord, pour qu'ils puissent mettre tout à plat, s'exprimer, parler de tous les paramètres, dissiper les malentendus, parce qu'en face à face, ils ne le peuvent plus, puisque en plus, si ça part en justice, si ce sont les avocats qui communiquent entre eux, ce n'est pas la même démarche que de communiquer ensemble. À un moment donné, ils ne peuvent plus parler en face à face.
Et en quoi tu dirais que cette approche systémique apporte une touche particulière à ta médiation, une coloration que n'auront pas d'autres médiateurs? En quoi ça te différencie?
Ah, je ne peux pas me comparer à d'autres médiateurs, parce que c'est largement quand même enseigné, et les médiateurs qui travaillent sur la communication ont ces connaissances. Elle est systémique puisqu'une médiation ne la prépare pas à l'avance. Quoi, voilà. Comme on est peut-être des experts, mais des experts médiateurs, des experts en communication. On ne peut pas préparer une médiation à l'avance et dire au bout d'un quart d'heure, je poserai telle question puisque je les aurais amenés à dire ça quelque part. Non, c'est vraiment une aventure de communication. Du coup, on ouvre un espace unique. Et les médiateurs sont les seuls à rassembler des gens qui sont en gros conflit ouvert. Un très gros conflit ouvert, avec des règles de liberté totale. Sauf que, voilà, vous êtes d'accord, on va prendre le temps. Le sujet dont vous voulez parler, c'est vous qui le décidez. Quel objectif vous avez? Déjà, le premier, c'est de pouvoir m'expliquer et de pouvoir écouter l'autre. Et notre rôle, c'est de favoriser cette écoute mutuelle. C'est un espace de liberté, un espace qui peut être très conflictuel. Une médiation, ce n'est pas un espace de paix au départ. C'est un espace où les gens posent leurs conflits sur la table. Dans un espace de sécurité, ce qu'on espère, où ils sont en confiance. Et le fait qu'il y ait un tiers, la communication n'est pas la même que lorsqu'ils sont face à face, devant leur jardin, en fait, je vais dire.
Donc toi, tu as ton background de systémicienne derrière. Tu accueilles des personnes qui sont en conflit dans le but de restaurer le dialogue, d'essayer de remettre en place la relation. Alors, lorsque je suis venue préparer chez toi cette émission, tu as sorti de ton tiroir le fameux élastique que tu utilises en formation pour faire la démonstration de ce qu'est une relation. Alors, les auditeurs n'auront pas l'image et le réel que j'ai pu avoir, mais est-ce que tu pourrais réexpliquer et refaire la démonstration de ce qu'est une relation avec l'élastique?
Oui, je vais essayer de le décrire, parce que une relation, c'est le troisième terme, en fait, entre une personne A et une personne B. Il y a A, il y a B, et entre eux, il y a une boucle. Il faut l'imaginer effectivement comme un élastique ou une ficelle qui tourne, mais qui tourne sur leurs deux doigts, on va dire.
C'est comme je ça, précise, je te l'ai montré. C'est un élastique de cours de récréation, un élastique qui est rond, comme on se sert quand on saute.
On peut le faire aussi avec une ficelle toute simple. Mais en tout cas, c'est une boucle. Et cette boucle, elle tourne à toute vitesse. Et c'est un principe aussi systémique qui s'appelle la causalité circulaire. A est en même temps émetteur et récepteur. Et B est en même temps récepteur et émetteur, puisque la communication, c'est la vitesse de la lumière. C'est le son, il va très vite, surtout quand on est à 2 mètres l'un de l'autre ou 1 mètre. Et la lumière, c'est 300 000 kilomètres à la seconde. Donc, c'est pour ça que c'était très novateur. Ces principes qui enlevaient la théorie qui reliait, en fait, la théorie de la communication et la théorie de l'information, c'était la même chose. C'est-à-dire, il y avait un émetteur qui recevait quelque chose, un récepteur et un feedback. Tout ça, c'est la théorie de l'information. La théorie de la communication, c'est que ça va à toute vitesse.
Et voilà. Tout ça est rassemblé dans cet élastique.
Alors, c'est la relation, cet élastique, qui est chargé de plein de choses, puisque une relation, elle a différentes caractéristiques. Elle peut être joyeuse, elle peut être paisible, elle peut être amoureuse, elle peut être sympathique, et elle peut être tendue, et elle peut être conflictuelle, justement. Voilà. Donc, le conflit n'est qu'une caractéristique de la relation. L'enjeu, c'est bien de distinguer le conflit à la violence, puisque la violence, c'est quasi prendre un ciseau et couper la relation, qui peut se faire sans violence aussi. Hein. Je veux dire, on peut décider à deux de dire on se parlera plus jamais, on se verra plus, et ça peut faire une violence si c'est pas décidé ensemble. Des fois, ça fait des violences psychologiques, bien évidemment, quand l'un ne l'a pas voulu. Donc, c'est une rupture, donc le fil est coupé. Mais tant qu'on doit vivre ensemble, entre voisins, dans une équipe de travail, en famille, les nœuds qui vont apparaître, les nœuds qu'on peut appeler des nœuds conflictuels, essayez d'imaginer hein, cette boucle qui, petit à petit, s'habite de nœuds, dans des malentendus, une parole un peu blessante qu'on n'a pas pu revoir. Et plus ces nœuds s'accumulent, plus on se rapproche. Bon, voilà.
Parce que le fil se raccourcit.
Le fil se raccourcit. Alors, si l'élastique, il se raccourcit moins vite. Enfin, quand on fait avec une ficelle, ça va vite. Donc, chaque nœud, en fait, empêche aussi la fluidité de cette boucle qui tourne à toute vitesse entre les deux. Et donc, on arrive non seulement à se bloquer sur chaque nœud, du coup, ça en produit un autre. Et plus ça va, plus on se rapproche. Et on est trop près, tellement près qu'on a envie de pousser l'autre de là, d'où des fois les paroles violentes et d'où des fois, malheureusement, la violence, parce qu'on ne sait pas comment faire. Les deux sont mal, très très mal.
J'allais te poser la question, ta démonstration fait le constat que plus on est proche, moins il est possible, en face à face, de dénouer les nœuds de la relation. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe ? Finalement d'être...
C'est toujours un peu étonnant d'entendre dire le conflit rapproche. Oui, il rapproche psychologiquement, puisque, évidemment, on pense, on est soucieux, on est mal à l'aise, on peut être honteux, on peut être en colère contre l'autre. Et donc, ça nous prend la tête, comme on dit, jour et nuit, parfois. Et donc, ça nous fait une violence, en fait, intérieure, hein, d'être en conflit. Et puis, on ne sait pas comment s'en sortir. Et oui, on est proche intérieurement et psychologiquement. On est encombré par cette relation et par l'autre, en fait. Voilà. Alors, on est proche, mais ce n'est pas un rapprochement heureux. Parce que l'amour aussi, on est proche. C'est des rapprochements heureux. Et donc, ce n'est pas pareil.
Donc, il y a des proximités vivables et d'autres pas.
Il y a des proximités positives et d'autres très, très négatives et destructives. Et d'autres porteuses, hein. Être très proche dans une relation amoureuse, sans nœud, c'est quand même bien. Même si on a un petit peu, c'est pas... Parce que tout va dépendre du nombre de nœuds et de malentendus. Voilà.
Life is
as parlé des nœuds qui se forment au fil du temps dans la relation, certains petits, d'autres plus gros. Est-ce que tu penses qu'une relation puisse être exempte de nœuds? Et si oui, comment?
Non, non, non. Jamais une relation est exempte de conflits, de mini, de grands. Et on est sans arrêt en train de négocier, hein, si on regarde avec l'autre, hein, nos besoins, puisqu'il y a plusieurs types de conflits. Les conflits de besoins... Ne serait-ce que le matin, il y en a un qui veut être dans le silence, l'autre qui veut écouter la radio. Donc, il faut négocier. La recherche est bel et bien que ce ne soit pas toujours le même qui gagne et toujours le même qui perd, entre guillemets. Et donc là, c'est des jeux subtils d'équilibre entre domination, soumission, coopération, fuite aussi. Hein, c'est quatre positions qu'on peut avoir dans le conflit. Pour une relation, pour qu'elle soit équilibrée, certes, il y a des jeux, je te laisse gagner parce que c'est moins important pour moi. Mais voilà, mais à ton tour, est-ce que voilà, c'est équilibré? Si c'est toujours le même qui cède, ça ne va pas aller.
Finalement, une relation qui peut durer malgré les nœuds, c'est le fait que chacun va pouvoir, à des moments, lâcher du mou, voilà, qu'il y a un certain équilibre qui va se trouver dans relation.
Et puis coopérer au nom de valeurs. Alors, parce qu'il peut y avoir des conflits de valeurs, mais en général, quand on se choisit dans une équipe, ou qu'on se choisit en couple, ou en communauté, etc., il y a un fond commun de valeurs qui habite la relation et qui font tiers, justement. La relation est un... On est dans un système ternaire. Dans la relation, il y a des valeurs. Alors, ça rapproche les gens et ça favorise que, évidemment, les nœuds de conflit seront plus faciles à dénouer au nom de valeurs. Alors, valeurs...
Voilà, j'allais dire, tu peux donner un exemple concret de valeurs?
Oui, alors, les valeurs... alors, il y a toutes les valeurs religieuses, évidemment. Il y a toute la valeur de respect de l'autre... de chercher à coopérer, c'est une valeur, la coopération, on la met. Alors, les valeurs qui se déclinent toujours en besoin, évidemment. La valeur de l'écoute, qui est un besoin aussi. Alors après, il y a des valeurs un peu plus matérielles, on va dire. Il y en a qui, s'ils sont d'accord pour vivre dans le désordre, voilà, c'est très subjectif, le désordre, je dis, ça ne posera pas de problème. Il peut y avoir des conflits de valeurs, l'ordre et le désordre, par exemple.
Est-ce que finalement, en cas de nœud relationnel, ce que tu dis, c'est que c'est important de se rappeler les valeurs qui font qu'on est dans la relation pour que ça nous aide à dépasser le nœud ?
Bien, voilà. Le nœud peut se dissoudre avec le temps. Voilà. C'est vrai que l'importance de mettre au point les valeurs et donc de savoir en termes d'objectifs ce qu'on veut, c'est aussi porteur, l'objectif dans une relation. Vers quoi on va, vers où on va, quels moyens. Une famille est habitée de valeurs et d'objectifs. C'est-à-dire déjà élever les enfants, être heureux, c'est un objectif aussi. Il y a aussi des objectifs matériels, etc. Construire une maison, retaper quelque chose, oui.
Tu as presque 30 ans, je crois, d'expérience dans la médiation, si je ne me trompe pas. Avec le recul et de tout ce que tu as vu, plutôt dans le champ du social, puisque c'est ta spécialité.
Enfin, un peu tout. Hein. Entreprise familiale, je suis médiatrice familiale. Sociale, oui, je l'ai été pour la mairie de Millau régulièrement. Donc, je fais tout type de médiation, franchement.
Alors, ma question était, quels sont les grands types de nœuds? Qu'est-ce qui fait que les gens...
ne peuvent plus se parler, ouais. Et ont perdu de vue leur valeur, du coup, et les objectifs communs.
Oui, si tu devais résumer en quelques grandes catégories, qu'est-ce qui fait que ça bloque dans la relation?
Mais on repart à la base, hein, tout simplement. On repart à la base de la communication. C'est ça qui est étonnant. Hein. Bon, moi, je ne mène pas des médiations, par exemple, entre des grands groupes qui vont négocier les rachats d'un autre groupe. Parce que là, on est sur cela de négociation qui est évidemment accompagnée d'avocats et d'experts. C'est qu'on l'appelle médiation et il y a un aspect médiation. Dans ce type de médiation-là, que ce soit les syndicats, les dirigeants, ont derrière eux des enjeux énormes financiers, humains, etc. Donc moi, je ne suis pas sur ce champ-là. On n'exclurait pas que les deux dirigeants puissent parler entre eux. D'accord, mais c'est... c'est pas du même ordre. Ils ne parlent pas en leur nom. dans mon métier, on rencontre des gens qui sont positionnés eux-mêmes en responsabilité, qui ont, on va dire qu'ils sont acteurs du problème et acteurs de la recherche de solutions. Donc les grands thèmes, la plupart du temps, démarrent sur « on ne sait pas parler ». J'ai cru ça, ah bon ? Et puis, il y a un dérapage sur une expression, il y a des représentations de l'autre, il peut y avoir des rumeurs autour qui envahissent. Alors, c'est des conflits relationnels qui ont traîné dans d'autres conflits. Dans le monde du travail, ça peut être la retenue d'informations, ça peut aller très loin, évidemment.
Mais ce que tu veux dire, c'est qu'à la base, il y a un problème de communication.
Oui, oui, très souvent. Oui. Par contre, il peut y avoir aussi des conflits structurels, c'est-à-dire le lieu ou le contexte de vie n'est pas bien étudié. Je peux me rappeler de familles qui, très courageuses, qui élèvent des petits-enfants, qui travaillent à fond, qui construisent une maison, enfin, etc. Et à un moment donné, il n'y a plus de temps, il y a de la fatigue. Donc, on va dire que c'est les paramètres extérieurs qui les mettent complètement en vrac, on va dire en vrac.
Voilà. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner un cas concret voilà, de médiation que tu as fait où il y a eu un nœud un peu, entre guillemets, remarquable, voilà, un nœud qui te revient en tête que tu pourrais illustrer?
Alors, pour illustrer, oui. Enfin, j'ai pas pensé à cette question, j'ai pas préparé.
Tu disais que souvent c'était un problème de communication. Voilà, si tu peux te rappeler un cas de mauvaise communication qui a abouti à un conflit énorme.
Oui, alors, bon... C'est une histoire... Bon, je prends celui qui me vient, parce que même s'il est un peu particulier, c'est une histoire de papier toilette posé sur une table. Tout simplement, oui. Donc, un couple, évidemment, c'est un exemple. Mais une fois qu'on démêle un conflit, c'est comme les poupées russes où vous trouvez la petite. C'est le principe des hologrammes. Et c'est un exemple qui éclaire tout le reste. Et là, pour faire juste court, hein, sans raconter l'histoire, cette maman qui venait d'accoucher, voilà, son mari lui apportait le petit déjeuner sur un plateau, et voilà. Mais elle n'était pas forcément rangeuse, voilà. Et en tout cas, les conditions de vie étaient un peu difficiles, et donc c'était un petit pot de chambre dans un coin de la pièce. Donc, il y avait un papier toilette qui se baladait. C'était pas pour faire du mouchoir, quoi, je veux dire, par là. Et donc, ben, pour elle, dans le climat tendu qu'ils avaient, quand il posait son plateau de petit déjeuner à côté d'un papier toilette, c'était pour lui dire, excusez-moi, enfin, le mot, c'était, tu me prends pour de là. Voilà, vous avez compris le mot qui suivait. Et donc, en fait, dans la discussion, lui... Tout à fait étonné, parce que c'est pas du tout ce qu'il pensait, évidemment. C'est pas du tout ce qu'il voulait faire comme communication. Il n'avait même pas vu ce rouleau de papier toilette. Il ne le voyait pas, quoi. Alors qu'elle voyait les deux côte à côte.
Et c'est des gens qui sont venus te voir
Oui, qui étaient en conflit. Mais... Donc, ils ont compris qu'il y avait plein d'accumulations de fausses représentations, de fausses intentions. Et ça les a beaucoup éclairés, oui. Vraiment, là, ils étaient... Parce que, en fait, elle croyait que lui le faisait exprès, alors que lui ne voyait même pas le problème. Mmh. Et ils ont cité plusieurs cas. Donc, c'est vrai que les êtres humains, notre cerveau, il est complexe. Hein, il travaille avec des représentations du monde qui font sens pour lui. Et on croit très naïvement que l'autre voit le même monde que nous, les mêmes événements, entend la même chose. Ce n'est pas vrai du tout. Et quand on ne se parle pas, évidemment, ça amène à des catastrophes du genre. Quoi, voilà. C'est un vrai travail d'être ensemble, de relationner, oui. Voilà.
Merci Nicole. Essentiel, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur Radio Centrafrique la première semaine de chaque mois, le lundi à 18h, le mercredi à 16h et le samedi à 14h. Retrouvez également l'émission sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify. Enfin, vous pouvez vous y abonner directement sur le site internet du podcast à l'adresse suivante podcast.osha.co/essentiel-le-podcast.